Troisième acte. Chapitre 1. Un jour, il était une fois, j'ai oublié mon sac à main dans un café près de l'Arc de Triomphe. Dans ce sac, il y avait une enveloppe non cachetée qui contenait 100 billets de 100 euros. 100 billets verts, tout droit sortis d'une banque. Jolis, craquants, bien repassés et propres comme des sous-neufs. Un gros garçon l'avait récupéré et me l'avait rendu 4 jours plus tard, intact. Bien caché à l'intérieur de ce sac, il y avait aussi une lettre qui racontait la vie de ma chatte et de mes nichons en 3D. Bon, ce sont des choses qui arrivent, j'imagine. Une lettre aussi juteuse, peut-être pas, mais des photos, des vidéos, des textos accablants, des pièces jointes indiscrètes, des pixels racoleurs, dégueulasses et malveillants. Avec tous ces bidules de cafteurs, avec tout cet attirail de narcissisme et d'impudeur dont nous avions tous pris grand soin de nous équiper aujourd'hui, ça devait en faire des gros chagrins, hein ? Oh que si ! Ça devait en mettre du sel dans les prétoires et sur les cœurs en charpie. Alors pourquoi je le vivais si mal ? Pourquoi est-ce que je faisais ma vierge effarouchée tout à coup ? Qu'est-ce que j'en avais à foutre qu'un type que je ne reverrai jamais ait eu un avant-goût du mien ? Hein ? C'est vrai ça ! Ça ne tenait pas la route, mes cris d'orfraie. Depuis quand j'étais devenue délicate, bordel de merde, je m'en serais rendu compte tout de même. Rien ne tenait plus la route. Et moi la première. Je suis allée à ce mariage avec 2 comprimés de space-fond sous la langue et la certitude de finir torpillée. J'étais jolie, peut-être, mais ça n'allait pas durer. Sur ce coup-là, je pouvais me faire confiance. Chapitre 2. Je suis arrivée essoufflée, et, fameux escarpin à tomber oblige, je me suis tordue la cheville en attaquant tout chousse le perron de la mairie du 20e. En grimaçant, j'ai accosté un type aussi endimanché que moi, mais qui avait l'air beaucoup moins pressé. « Pardon, je cherche la salle des mariages, vous. Vous savez où c'est ?» Il m'a tendu un bras où me perchait le temps de renfiler ma pantoufle de verre, puis m'a fort aimablement renseigné. « La forge à cocu ?» C'est par là, j'en suis. De la cérémonie aussi, j'entends. Serrez-moi donc de près, jeune fille instable. En bon dernier, nous nous ferons moins remarquer. Bingo. J'avais trouvé mon second larron. Et c'est probablement lui qui m'a confié un chauffeur de taxi, bien après minuit, alors que j'avais perdu mes 2 godasses depuis longtemps déjà. Les mariés ne m'ont jamais rappelé, ni remercié de mon cadeau. Je ne me souviens plus de mon état, et encore moins de ce que j'avais pu raconter à leurs invités, mais ça n'avait pas dû être très nuptial. Chapitre 3. Pourtant, ce fut ma dernière cuite. Et comme ils n'ont l'air de rien, ces 3 petits mots vertueux mis à la queue leu-leu, ma dernière cuite, je ne m'en suis pas méfiée. J'ai eu tort. C'était très mauvais signe. Car que reste-t-il aux gens qui ont cessé de boire alors même qu'il s'y appliquait par politesse du désespoir ? Le désespoir. C'était confus. C'est confus, le désespoir. Surtout dans mon cas de joueuse de bonneteau qui avait su si bien l'embrouiller depuis tant d'années. J'avais du mal à distinguer la complaisance de la véritable souffrance. Et comme je suis beaucoup trop froussarde pour soulever ma grosse pierre et comprendre un peu ce qui grouillait là-dessous, je m'en tiendrai aux symptômes, aux signes extérieurs de détresse. Certes, j'avais arrêté de boire, mais je ne mangeais plus non plus, et ne dormais pas davantage. Pour de la simple complaisance, avouez que cela représentait beaucoup de désagréments. Une autre, plus courageuse, plus maligne ou moins radine, serait allée consulter. Un psy en direct, peut-être pas, mais au moins un médecin. Le bon médecin de famille qu'elle n'avait plus. Enfin, n'importe quel généraliste de son quartier, sans entrer dans les détails, lui aurait dit tout de go. « Bonjour docteur, tout va bien, tout va très très bien, je vous assure. Mais comprenez-moi, il faut que je dorme, là. Il faut que je dorme un minimum, sinon je vais tomber debout. Oh, l'appétit, ce n'est pas grave. J'ai des hanches en bonne tête de brioche, vous savez. Et puis, regardez, j'en suis presque à 2 paquets de Marlboro par jour. J'ai de quoi tenir. » Mais les nuits, toutes, toujours toutes blanches à la longue. On en meurt, non ? Voilà exactement ce que j'étais en train de ressasser quand cette histoire ne faisait que commencer et que je me traînais de la place de l'Étoile jusqu'au cimetière de Montmartre, au beau milieu de la nuit, en lissant dans ma poche une 7e édition Bredouille. Eh oui, je ne suis pas très finaude. Tout ça pour en arriver là, à la case départ. Pardon ? 7 ? Mais Mathilde, mais tu viens de retourner tes 3 cartes à la fois, là. Tu es fichue, ma fille. T'as perdu. Tu sais comment ils appellent ça, le bonne taux, les Anglais ? Find the lady. Trouver la dame. Et alors ? C'est ça ? C'est ça qu'elle cachait, ta reine de cœur ? C'est ce gros patapouf, là, qui te met dans des états pareils ? Avec ses souliers vernis et ses soquettes pointes et talons renforcés bouclettes ? Et son doigt en moins ? Et ses couteaux pointus arrimés à son froc ? Et son blouson qui pue la chèvre ? Et ses lubies nocturnes ? Eh, je te signale qu'il l'a toujours, ton numéro, lui. Ok, toi t'es trop manche pour en recopier inconvenablement, mais lui, s'il avait voulu, il t'aurait rappelé depuis le temps. Ah, peut-être pas, remarque. Peut-être qu'avec que 9 doigts, il n'y arrive pas. Oh Mathilde, tu pourrais répondre quand on te parle. La ferme ! Raillez, persiflez, dénigrez tant qu'il vous plaira, mais ne me tirez pas les oreilles. Ne me faites pas la leçon. Vous savez combien je déteste cela. Si vous continuez sur ce ton, vous allez me perdre tout à fait. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à la fin ? Tout, ma belle. Tout. Fous-toi à poil et passe à table.